Bonjour Olivier Madiba.
Bonjour.
Il y a deux grands rendez-vous en Afrique de l'Ouest pour les amateurs de jeux vidéo dans les jours à venir. Ce week-end à Abidjan et puis la semaine prochaine c'est à Lomé. Est-ce qu'on peut dire que le jeu vidéo a passé un cap sur le continent africain?
Oui, définitivement, non seulement en termes de production, vu qu'il y a des studios comme le nôtre, mais aussi beaucoup de studios au Nigeria, en Afrique du Sud qui émergent, mais aussi en termes de consommation. Il y a une communauté qui commence à émerger et qui, du moins, s'affiche un peu plus et trouve ses marques.
Quelles sont les nouvelles pratiques qui se développent chez les joueurs de jeux vidéo sur le continent?
Déjà, il y a un peu de e-sport, mais on a aussi le mobile qui entre beaucoup dans les habitudes, notamment dans les familles où les jeunes enfants jouent beaucoup sur le téléphone des parents, vu la pénétration des smartphones. Disons que quand j'observe, c'est un peu comme quand le football venait de commencer sur le continent. C'était quelque chose, voilà, que les jeunes faisaient, les parents observaient, un peu curieux. Mais à un moment, quand la génération de gamins d'avant devient les adultes, ça devient un phénomène social, culturel, accepté. Donc, le jeu vidéo en Afrique est dans cette mutation-là et sur 10-20 ans, ça va être très intéressant de voir ce qu'il devient.
Cette grande pénétration des smartphones, c'est donc un grand potentiel pour les studios de jeux vidéo.
C'est le marché le plus prometteur, même si la grande équation, c'est la monétisation. Parce qu'on n'est pas dans une société de consommation excessive, du coup, on n'avait pas la grosse industrie des publicités qui font que votre audience peut être vite rentabilisée. Il y a une grosse difficulté à coupler la création de son jeu avec un modèle rentable sur les smartphones. Mais le potentiel est réel parce que si on prend rien qu'au Cameroun, 40% de la population a moins de 14 ans. Il y a une équation un peu de poule et l'œuf qui doit venir en premier, mais bon, c'est la grande équation africaine de notre décennie.
Est-ce que la création arrive à suivre et à répondre à cette demande?
Non, non, parce qu'encore une fois, la plupart des créateurs sont vraiment bloqués par le financement. Il y a une qualité que vous ne pouvez pas atteindre quand vous pensez à comment vous allez payer votre loyer dans 2 jours. C'est impossible. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent créer, mais on n'a aucune banque qui finance le jeu vidéo ici, comparé à l'Occident, par exemple, où certaines banques ne font que ça. C'est en train d'émerger, mais il n'y a pas encore de fonds, de capital risque là-dessus. Il n'y a pas encore assez de mécènes qui croient en ça. Donc, c'est vraiment le plus grand frein. Mais le potentiel est là.
Et qu'en est-il des consoles de salon? Est-ce qu'elles trouvent preneur? Est-ce qu'elles sont encore trop chères pour les joueurs de jeux vidéo sur le continent?
Oui et non, il y a une forme de classe moyenne au sens occidental du terme qui se met en place où tout le monde a des consoles maintenant, mais il n'y a pas de vraies stats. Mais je ne crois pas que ce soit une masse critique non plus. Par contre, il y a une classe moyenne de type, on va dire, africaine, c'est-à-dire des gens qui ont des rentrées journalières et sur laquelle il faut donc bâtir un modèle pour vendre, même s'il faut des consoles. Il y a quelque chose à faire, mais ce ne sera pas exactement comme on le connaît ailleurs. Dans la console Nintendo, Sony, pour l'instant, elle passera pas, ou du moins, elle aura toujours une génération de retard.
Et est-ce que le e-sport séduit aussi les joueurs africains? Le e-sport, on peut peut-être le définir, c'est une pratique du jeu vidéo à un niveau de performance élevé, voire semi-professionnel.
Alors, la forme professionnelle et semi-professionnelle, elle séduit, on va dire, les hardcore gamers, oui. Mais il y a une autre forme de e-sport qui est assez intéressante. C'est celle qui, par exemple, se passe sur Clash of Clans. C'est-à-dire, bon, c'est pas de la compétition de type sportive, compétitive, mais c'est des gens lambda qui s'affrontent sur leur smartphone à distance. Et ça peut avoir du potentiel en Afrique.
Quel est, à votre avis, le profil du joueur moyen sur le continent?
Je dirais que c'est un jeune qui a connu des jeux vidéo dans sa tendre enfance. Parce que s'il ne les a pas connus dans sa tendre enfance, en général, à l'adolescence, il a d'autres problèmes. Il a entre 13 et 25 ans, il est dans des villes déjà. Il c'est pas dans les villages. Celui qui est dans les villes, il est dans ce qu'on appelle une famille moyenne ici. Donc, avec des parents ou un parent qui travaille, qui a accès à un smartphone, que ce soit le sien ou celui d'un grand frère ou d'un oncle, et une console aussi, même s'il joue chez des amis.
Et quelles sont les forces du jeu vidéo africain?
Le fait d'avoir été colonisé par, je vais dire, un peu tout le monde, notamment au Cameroun, nous a donné une énorme élasticité culturelle. C'est-à-dire, quand on fait un jeu, en Afrique, on a l'opportunité de faire un jeu qui est compris à la fois aux États-Unis, en Chine, en Europe, parce qu'on peut donner des vues centrales à plusieurs thèmes. Puis on a aussi une grosse diversité culturelle qui donne un vivier d'imagination.
Donc la diversité culturelle comme force, et quelle serait la faiblesse du jeu vidéo africain aujourd'hui en 2017?
L'énorme retard technique de savoir-faire. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez donner 300 millions de dollars par exemple à Kiro, on ne pourra pas refaire GTA V. On donne le même budget, on ne peut pas. La prochaine génération de game designers du continent ne doit pas émerger du chaos comme nous on l'a fait. Il faudrait qu'il y ait un circuit de formation, d'intégration, qui transmette de l'expérience et qui renforce la qualité de l'industrie.
Merci Olivier Madiba.
Merci aussi.